la version canapé. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Hot version canapé, le programme qui casse les mythes et les tabous autour de la sexualité. Ce soir, on s'invite chez Nolwenn Kerebel, sexologue, pour parler de sexualité normale. Je suis Lénaïque, en compagnie de Louis, acolyte de toujours, pour présenter cette émission.
Les normes définissent tous les aspects de notre société, notre physique, le rapport aux autres, le travail. Mais comment, dans cette société encadrée par toutes ces règles, qui s'immiscent même dans notre vie intime, pouvons-nous être libres et épanouis dans nos relations? Quelles sont les normes en termes de sexualité? Comment se définissent-elles? Comment chacun d'entre nous peut se construire face à cette idée de sexualité normale? De nombreuses questions auxquelles nous tenterons de répondre durant la soirée.
Bonsoir Nolwenn Kerebel.
Bonsoir Lénaïque. Bonsoir Louis.
Alors, pour commencer, derrière tous les questionnements de physique, de taille, de pilosité, le nombre de rapports, la fréquence, la performance ou encore même l'attirance. La question qui se pose, c'est la question de la normalité. À un moment, tout le monde se pose la question, suis-je normal ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Alors, c'est vrai que je remarque généralement dans les consultations de sexologie, les gens peuvent venir me voir pour différents motifs, différentes plaintes, différents symptômes. Et le plus souvent, la question qui se pose derrière ces plaintes-là, c'est « est-ce que je suis normale ?» Alors, « est-ce que je suis normale ?» ça veut dire qu'il y a des modèles de normalité qui sont proposés dans notre environnement, dans notre culture, et il y a différentes sortes de modèles, différentes normes qui peuvent être définies, effectivement. Par exemple, il y a la normalité statistique, c'est-à-dire que c'est la majorité des gens, ce sont les pratiques avérées ou supposées du nombre du plus grand nombre d'entre nous. Et est-ce que moi, je suis dans cette normalité statistique? Par exemple, l'âge du premier rapport sexuel.
Quel âge on va être à peu près?
Alors, l'âge moyen du premier rapport sexuel est près de 17 ans, chez les garçons et chez les filles, et c'est un âge qui n'a pas beaucoup évolué depuis quelques dizaines d'années. Par contre, est-ce que je suis anormale si j'ai eu mon premier rapport à 15 ans ou si j'ai mon premier rapport à 25 ans ? Voilà. Donc ça, c'est toujours une question qu'on se pose aussi.
Alors après ? Alors, du coup, par rapport à cette normalité d'âge, par exemple, pour reprendre cet exemple, il y a une histoire de pression aussi, la pression qu'on peut poser aux autres, j'imagine dans les cours d'école, de lycée, entre copains, quand on commence à en parler.
L'adolescence, effectivement, est un moment de la vie où la pression sociale est très, très, très forte. Et si j'ai pas eu de rapport ou si je suis pas sortie avec un garçon ou une fille, voilà, je suis considérée comme quelqu'un de pas normal. Je pense que la bonne question à se poser, par exemple pour l'âge du premier rapport, c'est juste est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que je me sens prêt ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Par exemple.
Est-ce qu'il y a d'autres types de normes que la norme statistique ?
Bien sûr. Il y a la norme, on va dire, culturelle, c'est-à-dire le poids de la culture dans laquelle je baigne, dans laquelle j'ai grandi. Et là, il y a des grandes variations, en fait, suivant ces différentes cultures. Dans notre culture, par exemple, le sein, si on peut prendre la poitrine féminine, est érotisé. Si on voit une femme qui montre ses seins, c'est un objet sexuel, c'est quelque chose d'érotique. Si vous allez, par exemple, en Afrique, les femmes se promènent les seins à l'air et ça ne choque personne. C'est-à-dire que là-bas, le sein de la femme, la poitrine féminine, a simplement la fonction primaire pour laquelle elle a été faite, c'est l'allaitement et on est des mammifères. Hein, voilà. Et nous, culturellement, on a tellement modifié la représentation de la poitrine féminine, c'est devenu un objet sexuel, un objet érotique, si bien que même de nos jours, une femme qui allaite son enfant en public, dans certains endroits, certaines personnes peuvent considérer que c'est choquant. Alors que le sein est juste à sa fonction primaire allaitante. Voilà. Donc ça, c'est un exemple effectivement de la culture et de ce que la culture peut produire en termes de normes.
D'accord. Mais dans tout ça, est-ce que du coup, ça pose une certaine question de morale ou autre par rapport à certaines choses qui peuvent être faites ?
Alors bien sûr, il y a la norme morale qui est différente de la norme légale. Effectivement, on va voir ça. La norme morale, c'est le bien, le mal, il faut, il ne faut pas, je dois, je ne dois pas, etc. Et on est plein de ces injonctions à la norme. Voilà, on en est rempli, on en entend tout le temps. La morale, effectivement, elle peut aussi être, donnée par la religion, hein, qui nous donne aussi beaucoup, les religions produisent aussi beaucoup de normes de morale, voilà. Et effectivement, dans la façon dont chaque individu grandit, se construit dans sa sexualité, il y a le poids de ces normes morales. Voilà.
Qui, est toujours forcément un peu influencé, enfin. Toujours influencé par le milieu qu'on côtoie au final.
Bien sûr. Le milieu dans lequel on aura grandi va influencer la façon dont on va se comporter. Hein. Au niveau de la morale, par exemple, les milieux qui sont, religieux, où la religion est très 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 présente, eh bien là, la norme, ce sera d'attendre le mariage, par exemple. L'importance de la virginité au mariage. Voilà. Pour d'autres, ce sera absolument pas quelque chose d'important. Et pour d'autres, au contraire, arriver au mariage en étant vierge serait plutôt anormal parce que ces personnes vont considérer qu'il faut plutôt avoir essayé plusieurs partenaires, avoir eu des expériences différentes avant de s'engager.
Tout à fait.
Donc là, on est plutôt sur une norme, on dirait, plus personnelle, propre à chacun.
Mais la norme personnelle, chacun se construit sa norme personnelle en fonction de l'endroit dans lequel on vit, de la culture dans laquelle on baigne, de l'éducation qu'on a reçue. Est-ce que dans la famille où j'ai été élevée, par exemple, est-ce que ne serait-ce que le rapport au corps est quelque chose de plutôt compliqué
discret.
Ou voilà, est-ce que un enfant qui a l'habitude de voir la nudité de ses parents, lui, son rapport au corps sera quand même beaucoup facilité, il y aura peut-être moins de pudeur qu'un enfant qui aura toujours vu ses parents hyper habillés, voilà. Donc l'environnement dans lequel on grandit, le rapport au corps, le rapport au plaisir en général aussi, parce que on a quand même nous effectivement une morale un peu judéo-chrétienne ici dans nos pays, en Bretagne, voilà.
Oui, on n'est pas trop censé avoir du plaisir par nous-mêmes, le principe c'est... sur un sexe qui est plus reproducteur encore.
Je parle du plaisir même en général.
D'accord.
Voilà, parce que dans la société judéo-chrétienne, les normes judéo-chrétiennes, en fait, le plaisir est quelque chose, en général, même le plaisir alimentaire, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est plutôt sur Terre pour souffrir. Donc, effectivement, ces normes-là, le rapport au plaisir est quelque chose de compliqué. Le plaisir est vécu comme quelque chose de coupable.
Oui.
Or, la sexualité, c'est quand même un peu pour se faire plaisir aussi. Donc, en fait, la question, c'était effectivement comment est-ce que l'on peut arriver, chaque individu, à se faire une représentation de ce que la sexualité normale pour soi.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va prendre des petits bouts de toutes les normes auxquelles on a été confronté dans la construction de notre sexualité, de notre personnalité, et on va se faire, avec ses propres expériences, les différentes rencontres que l'on aura eues aussi, voilà, on va se faire sa propre notion de la normalité.
C'est comme un grand puzzle. En fait.
Ah, je trouve que l'image est très très jolie. Effectivement, ça ressemble un petit peu à ça.
On ne sait pas où est-ce que ça va mener, mais on sait juste qu'on assemble les pièces.
Vous êtes toujours sur Radio U, on écoute Hot et on est avec Nolwenn Kerrebel, sexologue, pour parler du mythe de la sexualité normale.
D'un point de vue, peut-être plutôt clinique, biologique,
plutôt médical,
est-ce que, il y a quelque chose de prédéfini
Il y a des normes, effectivement, cliniques, biologiques, qui sont à ce moment-là rédigées et données par les manuels de médecine. Donc, au niveau physique, physiologique, anatomique, effectivement.
Oui.
Bon, il y a des définitions de ce qui peut être normal ou pas normal. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de la taille des petites lèvres chez les filles.
D'accord.
Où, effectivement, de façon statistique et biologique, la moitié des femmes ont des petites lèvres qui vont dépasser D'accord. des grandes lèvres.
Oui.
30% des femmes ont des lèvres, petites lèvres qui vont être de la même taille que les grandes lèvres, et 20% des femmes ont des petites lèvres qui vont être plus petites que les grandes lèvres. Or, avec l'influence, par exemple, de la pornographie, il faut savoir que les actrices porno, elles sont opérées pour avoir des petites lèvres qui D'accord. soient à l'intérieur des grandes lèvres. Parce que visuellement, esthétiquement,
c'est plus joli.
C'est
chacun.
C'est plus visuel, on va oui. dire, dans les plans, dans les séquences porno. Et du coup, les femmes qui sont habituées à voir du porno sont habituées à voir des femmes avec des sexes opérés, en fait, pour avoir des petites lèvres plus petites, et vont penser que c'est la normalité.
Oui.
Donc, une femme sur deux qui a des lèvres qui sont plus grandes, des petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres, va penser qu'elle n'est pas normale, alors que, dans la nature, il y a différentes... la question de la taille chez le garçon aussi est toujours très importante.
Je confirme.
Dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, c'est des normes médicales qui sont prédéfinies. Après, au niveau des normes médicales aussi, ce qui est important peut-être à souligner, c'est, par exemple, si on prend l'exemple de l'homosexualité. Jusqu'en 1990, oui. L'homosexualité était considérée comme une maladie mentale.
En effet.
Elle n'a été sortie des registres des maladies mentales par l'OMS qu'en 1990. Donc, vous voyez, les normes, même médicales, même biologiques, eh bien, tout ça évolue énormément. Donc, ce qui est normal aujourd'hui, on considère que l'homosexualité est quelque chose de normal. Il y a quelques années, c'était une maladie.
Et alors, juste pour revenir sur l'influence de la pornographie, est-ce que du coup, on peut dire que le porno éduque à une certaine normalité, par exemple en termes de pratique, et comme vous l'avez cité, en termes de physique ?
Alors malheureusement aujourd'hui en France, moi je considère qu'il n'y a plus d'éducation à la sexualité, effectivement. Les jeunes sont un peu obligés de faire leur éducation tout seuls. Voilà. Et ils vont la faire là où ils la trouvent, c'est-à-dire que la pornographie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessible qu'il y a quelques dizaines d'années.
Tout à fait.
Voilà, on peut avoir accès à des images porno, à des films porno, tout le monde le sait, de façon très très facile et gratuite.
Il suffit simplement d'avoir Internet.
Complètement, et tout le monde l'a.
Voilà.
Donc de plus en plus jeunes, les enfants sont donc confrontés à des images porno, et ça va participer en un sens à l'éducation, mais il faut que ce soit aussi, faut que ça puisse être discuté après avec des adultes, mais surtout ça va là produire des normes.
Oui.
Voilà, la pornographie produit des normes en termes de pratique, donc en termes de biologie, on l'a vu, enfin en termes d'anatomie, et en termes de pratique. Moi, je vois régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois, de rencontrer des jeunes filles qui venaient faire un test de dépistage, par exemple, ou bien en consultation à l'hôpital, suite à les premiers rapports sexuels. Et lors de leur toute première expérience sexuelle, on se rend compte, quand on discute un petit peu avec elles, que systématiquement, il y a, au niveau des pratiques, il y a fellation, il y a pénétration vaginale et il y a pénétration anale.
D'accord.
Donc, la pornographie produit ces normes-là.
Mais sans forcément, du coup, en plus, se demander si c'est vraiment ce qu'on aime et ce qu'on désire, en fait. C'est plus de la
question
copie à l'heure actuelle.
À se poser, effectivement. C'est-à-dire que, eh bien, puisque j'ai vu ce modèle-là, je pense que c'est ça la norme, donc j'applique la norme. Et je n'écoute pas mon corps, je n'écoute pas mes envies, je n'écoute pas mes représentations, effectivement. Est-ce qu'on a envie vraiment d'avoir recours à ces pratiques-là à 16 ans ou 17 ans lors de ces toutes premières expériences ? Moi, j'en suis pas sûre. Je m'interroge. En tout cas, en tant que sexologue, ça m'interroge beaucoup.
Oui.
D'accord, très bien. Et donc, par rapport à cette notion de sexualité, etc., on a souhaité interroger quelques étudiants pour voir justement quel est leur rapport, eux, à la sexualité. Donc, on va passer quelques témoignages qu'on a reçus.
Est-ce que je pense qu'il y a une sexualité normale ? Non, je pense qu'il n'y a pas de sexualité normale. Je pense que tout le monde a sa propre sexualité et sa propre approche du sexe, et que chacun fait ce qu'il veut, et que tant qu'il ne fait pas de mal à quelqu'un d'autre et que tout le monde est consentant, il n'y a pas de raison d'être chiant avec ça, je pense. Voilà.
Et dans ce cas-là, pour toi, c'est quoi une déviance sexuelle ?
Il va falloir que je réfléchisse deux secondes du coup. Qu'est-ce qu'une déviance sexuelle ? Une déviance sexuelle, je dirais qu'à partir du moment où... la notion de sexe consentant n'est plus respectée ou que les gens ne se sentent pas à l'aise quand ils pratiquent ce sexe-là, je pense que c'est une déviance parce que avec son corps et sa notion, son approche.
Alors pour toi, est-ce qu'il y a une sexualité normale ?
Bah ça dépend parce que au terme strict de normal, c'est-à-dire qui correspond à la norme. Oui, parce que la norme, c'est l'hétérosexualité, donc techniquement parlant, la sexualité dite normale, ce serait l'hétérosexualité. Mais étant donné que c'est vraiment selon une norme, donc imposée, on peut considérer aussi que selon différentes normes, les autres sexualités, comme par exemple les relations homosexuelles, bisexuelles, asexuelles, peuvent être également normales.
Alors, je pense que chaque sexualité est différente, mais je pense que la base... Et pour tout le monde normal, ça se base sur des normes sociétales, ça reste de la transmission, donc je pense que la base doit être normale, mais après on l'interprète et on lui donne le symbolisme différent à chaque relation avec pour chaque personne, quoi.
Pour moi, je pense que le sexe est propre à chacun et que pour nous le sexe qu'on va pratiquer, ça sera normal pour nous et peut-être pas normal pour les autres, mais on n'en parle pas vraiment, c'est pas tabou, mais on va pas non plus exposer à tout le monde et ça reste propre à nous, on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde et je pense que chacun a sa propre vision du sexe en tant que le terme normal, je pense que pour moi c'est pas il y a pas de sexe normal en fait,
Est-ce que toutes les informations sont passées ?
Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes dans ces témoignages. Déjà, il y a la notion du consentement qui a été abordée. Et c'est quelque chose, en termes de sexualité, qui est vraiment fondamental.
Et qui devient un peu une norme aussi aujourd'hui. Enfin, ça paraît normal, en fait, pour les témoignages qu'on a eus. C'est la seule chose qui définit la normalité d'une relation, c'est justement son consentement ou pas.
Alors, c'est effectivement, à peu près tout le monde s'accorde à dire que le consentement est quelque chose d'indispensable.
Tout à fait.
Malgré tout, on peut se poser la question du consentement réel et éclairé par rapport à soi. Parce que si on fait rappel à juste ce qu'on disait tout à l'heure, une jeune fille de 16 ans qui pratique la sodomie lors de son premier rapport, est-ce que c'est vraiment son consentement profond, vraiment le respect de son désir qu'elle écoute, ou bien c'est le consentement normé aussi, voilà. Mais le consentement, effectivement, sexuel est quelque chose de fondamental, et là, on est même dans ce qu'on appelle les normes légales. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qui est important, parce que dans ma propre définition la sexualité normale, effectivement, il faut quand même respecter le cadre légal.
D'accord.
Et le cadre légal, ça veut dire qu'on n'a pas de sexualité entre adultes et enfants. La pédophilie, c'est interdit. On n'a pas de sexualité avec des animaux. Là, on va pouvoir, après la question suivante, ça va être la déviance, d'après ce qu'on a entendu dans les témoignages. Pas de rapport avec des animaux et pas de rapport avec des personnes non consentantes. Donc là, effectivement, le cadre légal est fondamental. Et le cadre légal peut aussi évoluer en fonction des pays où on se trouve. C'est-à-dire qu'ici en France, par exemple, la norme légale, c'est la monogamie. On n'a pas le droit d'être marié avec plusieurs personnes à la fois. Dans certains pays, la norme légale, c'est la polygamie. Voilà. Donc nous, si on rencontre quelqu'un de polygame, on va dire que ce n'est pas normal qu'il ait plusieurs femmes. Là-bas, il va vous dire que vous n'êtes pas normal parce que vous n'en avez qu'une.
C'est ça. Tu veux continuer ?
On avait aussi cette idée... d'évolution un petit peu des normes, puisqu'on a un témoignage qui dit que la norme qui est prédominante, on va dire, avant était l'hétérosexualité, et que maintenant, en fait, l'émergence de nouvelles normes qui sont l'homosexualité, la bisexualité, etc. Donc les normes évoluent.
Les normes évoluent, effectivement. Alors, si on prend l'exemple de l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver là, l'homosexualité a toujours existé depuis que l'humanité existe. Il y a même des normes, des sociétés où, si on prend l'Antiquité par exemple, valorisé. Voilà.
C'était valorisé dans un sens après, puisqu'il fallait être dominant.
Alors en fait, il y avait deux types de sexualité. Il y avait la sexualité reproductive. C'est-à-dire que le domus, le maître de maison, donc, avait une sexualité avec sa femme, mais c'était une basse sexualité purement reproductive. Et la sexualité valorisée, donc qui était plus digne et qui apportait plus de plaisir et qui était récréative, c'était une homosexualité avec des plus jeunes. Donc, bon, la pédophilie, jusqu'où ça allait, je ne sais pas. Mais
on n'y était pas.
On n'y était pas. Et, mais effectivement, c'était, donc, l'homosexualité, à ce moment-là, n'avait pas du tout la même représentation sociale qu'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, elle a été pathologisée, c'est-à-dire qu'on a plutôt considéré que c'était une pathologie, comme on l'a rappelé tout à l'heure, jusqu'en 90 par l'OMS. Il y a eu la médecine s'en est mêlée, la médecine a essayé de proposer des thérapies.
D'accord.
Pour les homosexuels. Ça existe un petit peu toujours aujourd'hui. Alors, c'est plus maintenant des associations. C'est plus la médecine qui font ça, mais des associations spirituelles, religieuses, proposent des thérapies de conversion. Ça existe. Il y avait une émission très, très bien qui est passée l'autre jour sur Arte.
D'accord.
Qui montrait un peu toute l'horreur de ces thérapies, dites thérapies hein, de conversion.
Je pense que ça
Petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après avec notre hôte dans l'émission Hot, version canapé, le programme qui casse les mythes et les tabous autour de la sexualité. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine.
Sur Radio U, on écoute Hot et on est avec Nolwenn Kerrebel, sexologue, pour parler du mythe de la sexualité normale. Alors, ce qu'on entend dans ces témoignages aussi, c'est que une norme comme l'hétérosexualité, pardon, qui était donc la norme pour tout le monde il y a quelques années, change et on se retrouve avec l'apparition d'une homosexualité, d'une bisexualité qui ne choque plus. Est-ce que du coup, on peut dire que les normes évoluent ?
Oui, heureusement. Donc, les normes évoluent. Pour ce qui est de la question de l'homosexualité, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que l'humanité existe et qui existe aussi dans le règne animal. On trouve de l'homosexualité, des pratiques d'homosexualité chez les grands singes, par exemple. Et il y a même des périodes de l'histoire où l'homosexualité était assez valorisée. Dans la Grèce antique, par exemple, il y avait deux types de sexualité. Le domus, le maître de maison, avait une sexualité avec sa femme, hétérosexuelle, mais qui était uniquement à visée reproductive. Et ce n'était pas du tout récréatif, ce n'était pas du tout valorisé. Par contre, il devait avoir une sexualité avec des jeunes hommes, et il était un petit peu l'initiateur, et devait leur apprendre en fait, la sexualité là, qui était la sexualité de plaisir, récréative, et qui était extrêmement valorisée. Donc vous voyez, les choses évoluent beaucoup.
Mais on était quand même sur une sexualité déjà normée. Enfin, il y avait les propres codes finalement aussi oui. Dans l'Antiquité.
Toute société a des codes et des normes pour contrôler les comportements de ses individus. D'accord. C'est ce qu'on appelle le contrôle social. Du coup, tout ça évolue en fonction des endroits où l'on vit et de la période, de l'époque à laquelle on vit. Donc pour en revenir sur l'homosexualité et l'évolution par rapport à l'homosexualité, avant d'en arriver là jusqu'en 1990 où l'OMS a enlevé l'homosexualité de la liste des pathologies, quelques années auparavant, c'était très 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 compliqué de pouvoir vivre une homosexualité puisqu'il y avait même ce qu'on appelle des thérapies de conversion qui étaient donc fabriquées par des psychiatres, des médecins. Concrètement, comment ça se passait ? Par exemple, un homme homosexuel, on lui présentait des vidéos ou des images d'hommes. Et s'il avait la moindre réaction érotique, le moindre début d'érection, par exemple, il recevait une décharge électrique. C'était donc des pratiques qu'on appelle aversives, donc pour essayer de modifier son comportement sexuel.
C'est sympa tout ça.
J'ai un peu du mal à l'image.
Oui, je me doute.
Il y a eu pire, puisqu'il y a eu pendant la guerre, Hitler en fait faisait lobotomiser en fait les homosexuels pour voir si au niveau cérébral il n'y avait pas quelque chose chez eux qui était anormal justement, et après une lobotomie s'ils pouvaient devenir hétérosexuels.
Voilà. Bon, ça
devait
être très concluant.
Il y a un film là-dessus qui en parle, qui est avec Benedict Cumberbatch.
Oui.
J'ai plus le titre en tête, mais effectivement.
Mais ouais, voilà. On le mettra dans le podcast. Non,
Enigma?
J'ai plus le titre.
Non, c'est pas Enigma.
Non, c'est avec Game dedans.
Mais il faut savoir que les thérapies d'inversion existent toujours. Donc maintenant, c'est plutôt des associations spirituelles ou religieuses qui vont les proposer.
Et c'est légal ou?
Ah oui, bonne
Alors,
question.
En fait, toute association a le droit d'exister. Toute association, à partir du moment où ça n'est pas considéré comme une secte et que chaque personne qui va, chaque homosexuel qui va dans cette association, elle y va de son plein gré, en fait. Elle est complètement volontaire. Pour l'instant, on ne peut pas les dissoudre. Voilà.
Donc,
je pense qu'il faut juste les surveiller. Et puis, il y a une émission très très bien sur ce sujet qui était diffusé la semaine dernière sur Arte.
D'accord.
Donc peut-être vous pourriez aussi mettre les références, je vous les donnerai
oui,
tout à l'heure.
Peut-être, avec plaisir.
Sur le podcast, parce que c'est intéressant, puis il faut toujours être être en éveil et puis faire attention que justement ce qu'on a acquis comme liberté, elle ne nous soit pas enlevée.
Vous vous souvenez du nom de l'émission ?
Non.
Bon.
Mais je vais le retrouver et puis vous pourrez le mettre.
On mettra ça en lien.
En lien.
Ok. Donc, on a un autre témoignage à vous faire écouter, qui est assez intéressant, qui justement est en lien avec ce qu'on vient de dire.
Alors pour moi, une déviance sexuelle, c'est une maladie mentale. Et c'est une personne qui ne peut pas se contrôler sexuellement, comme c'est une déviance sexuelle. Et je vois pas comment l'expliquer, mais une personne malade mentale qui fait des choses sexuellement sans s'en rendre compte, enfin, elle ne peut pas s'en empêcher en tout cas.
Donc c'était un témoignage qu'on a recueilli à la fac de lettres de Brest auprès de quelques étudiants qui ont accepté d'être enregistrée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion de déviance mentale et de maladie mentale ?
Alors, en termes de déviance sexuelle, c'est plus tout à fait, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup. Nous, sexologues, on parle plutôt aujourd'hui de paraphilie, c'est-à-dire paraphilie, donc des personnes qui vont avoir une excitation sexuelle non conventionnelle, on va dire, qui vont avoir des excitations sexuelles ou des pulsions sexuelles en dehors des choses qui sont assez communes. Voilà. La paraphilie, ou les paraphilies, parce qu'il y a différents types de paraphilies, c'est pas un problème en soi, à partir du moment, effectivement, et c'est ce qui est un petit peu dit dans le témoignage, c'est pas un problème en soi à partir du moment où il n'y a pas de souffrance, ni pour soi, ni pour les personnes avec qui on peut avoir ces pratiques sexuelles. Si on prend quelque chose qui est assez connu, le fétichisme par exemple, le fétichisme du pied.
Oui, par exemple.
Voilà. Eh bien, imaginons un couple où eh bien, un des partenaires est fétichiste et trouve une excitation sexuelle dans la manipulation du pied de son partenaire et trouve du plaisir à jouer sexuellement avec le pied de son partenaire. Si ça plaît aux deux, il n'y a absolument pas de souffrance, c'est un problème pour personne. Voilà. On ne va pas dire que c'est un malade mental.
Non, c'est
pas,
ça.
Voilà. À partir du moment, par exemple, où la paraphilie, ou enfin le fétichisme devient le seul mode d'excitation sexuelle et que la personne ne peut plus avoir une excitation sexuelle en dehors du pied de son ou de sa partenaire,
oui.
Là, ça peut générer une souffrance. C'est-à-dire que peut-être que sa femme ou son mari, enfin peu importe, ou son partenaire, va lui dire « Bon, t'es mignon, mais tu t'excites sur mon pied, c'est bien, mais j'ai pas qu'un pied, quoi. Je suis une personne autour de ce pied-là. »
J'en ai un deuxième, tiens.
Voilà. Mais j'ai aussi tout un corps autour de mon pied. À ce moment-là, ça peut générer effectivement une frustration, une souffrance. Donc là, il peut y avoir une prise en charge en sexo derrière. Mais on est d'accord que tout à l'heure, on considérait que le fait qu'il s'excite sur le pied de sa partenaire ou de son partenaire n'était pas un problème. Mmh. Pourquoi ça deviendrait un problème là ? Enfin, voilà.
Tout comme que si c'était en rapport avec la souffrance, si c'est par exemple dans le cadre du BDSM, si les deux partenaires sont consentants, tout va bien.
Il n'y a aucun problème à partir du moment où ils sont consentants, effectivement, tout le monde. On y va de façon volontaire, consentante. Dans le BDSM, les choses sont très, très codifiées, sont très, très définies. Le consentement, il est toujours donné, normalement, à l'avance. Il y a des codes qui sont donnés, c'est-à-dire que quand on veut arrêter...
Rouge.
Tout est indiqué. Oui, ça, c'est un film qui n'est pas très, très... C'est dans 50 ans.
Je ne me souviens plus.
D'accord. Alors, les codes sont juste à définir avant entre partenaires. Et je ne sais pas si peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est que le BDSM, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas l'information.
Je pense que c'est pas mal, effectivement.
Alors, le BDSM, en fait, c'est bondage, sado, masochisme. C'est en fait toutes les pratiques sexuelles un peu hard, un peu extrêmes, en fait, qui sont. On parlait surtout avant de sadomasochisme, de SM. Bon, voilà, ça s'appelle BDSM maintenant.
D'accord, mais est-ce que du coup, cette sexualité, donc on a dit qu'elle était basée principalement sur le consentement, donc en fait on est sur une sexualité totalement saine ?
Mais parfaitement. D'accord. Là, l'excitation, en fait, elle va se situer simplement sur le fait d'être dominé ou dominant. On est aussi sur le rôle de la douleur dans l'excitation sexuelle. En fait, il y a des personnes qui vont, chez qui la douleur va provoquer une excitation sexuelle. Donc, à partir du moment où eux ne sont pas en difficulté, en souffrance par rapport à ça, par rapport au moment où leurs partenaires ne sont pas non plus en souffrance ou en difficulté, il n'y a aucune raison de considérer qu'on est sur quelque chose de pathologique ou d'anormal.
Très bien. Je profite de l'instant présent pour répéter que nous sommes toujours en compagnie de Nolwenn Kerrebel.
Tout à fait.
J'arrive encore à lire. Tout va bien. Vous êtes sexologue.
Oui.
Et nous sommes donc dans votre salon pour parler de la sexualité normée.
Ok. Est-ce qu'on écoute un dernier témoignage ou un avant-dernier ? Je ne sais plus.
Prochain qu'on pourrait écouter est sur les pratiques sexuelles et le porno.
Bah normal, je trouve pas que ça soit vraiment approprié comme mot, parce que la sexualité c'est quand même intime, c'est un partage d'intimité, et c'est entre deux personnes, il n'y a pas forcément de normalité ou de pratique, tant que toi tu le vis bien, tant que toi t'es à l'aise avec ce que tu fais et que tu te sens pas forcé ou voilà, que t'es bien, quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas de... il n'y a pas de, d'usage. Tu
il
ne
devrait pas y avoir de normes.
Bah non.
Et du coup,
enfin, après, forcément, de façon générale, dans les avis, voilà, dans, de façon globale, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont plus, mieux vus, on va dire. Quoi.
Et plus répandus, du
coup. Ouais, plus répandus. Ou alors juste, il y a des personnes aussi qui préfèrent faire genre en société. Voilà, on fait des trucs. Alors que en intimité, des fois, ça peut être un peu violent ou des trucs comme ça. Ou voilà, ça se trouve, le mec, il aime bien se prendre des doigts. Et puis au final, il va dire, ouais, non, jamais de la vie. Alors que ça se trouve, en fait, il aime ça. Et puis c'est normal parce que c'est une zone de plaisir pour les hommes, tu vois. Même s'ils sont pas contents, c'est vrai, tu vois. Donc, après, voilà, c'est... Pour moi, il n'y a pas vraiment de normalité. Puis comme je t'ai dit, ça présuppose qu'il y ait une norme. Alors que le sexe, c'est vachement, je sais pas... À travers le temps, ça évolue, quoi. Genre, par exemple, à l'époque, c'était très tabou. Là, maintenant, avec tout l'essor des trucs pornographiques, ça donne un nouveau côté en mode... la femme, c'est encore plus un objet qu'avant, et on peut lui faire tout ce qu'on veut. Alors après, il y a des femmes qui aiment bien ça, mais il y a des femmes qui aiment pas ça non plus. Et les garçons, comme les filles, hein, qui sont éduquées avec ça, avec la pornographie, qui font, tu sais, les recherches qu'ils font d'eux-mêmes... Souvent, c'est plus ça qu'on voit. C'est pas vraiment forcément de l'amour entre deux personnes.
Alors, c'était plutôt... ça reprenait beaucoup de ce dont on avait déjà parlé.
Oui, mais... c'est riche comme témoignage, effectivement. Alors, effectivement, effectivement, la pornographie, c'est tout sauf de l'amour. Hein. Voilà.
Mais... C'est du cinéma, en fait. C'est un truc qu'il faut faire attention. C'est que...
Alors, bien sûr, c'est du cinéma.
C'est pas la vraie vie, en fait.
C'est pas du tout la vraie vie. Ça, je pense que tout le monde se l'accorde. Enfin, voilà. Alors, après, dans la pornographie, il y a aussi de la pornographie amateur. Hein, les Jackie et Michel, c'est-à-dire que c'est des gens qui se filment et qui vont publier leur sextape en fait ou leur mise en scène. Mais c'est de toute façon de la mise en scène effectivement et où on va essayer toujours. Alors ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que sur les plateformes de pornographie en libre accès, gratuite, c'est financé par de la publicité. Mmh. Et donc les annonceurs, ils ont eux comme objectif simplement d'avoir le plus de vues possible. Donc pour avoir le plus de vues possible, les hébergeurs des sites gratuits, des plateformes gratuites, vont avoir tendance à mettre des choses de plus en plus trash, de plus en plus hard pour faire le maximum de vues. Donc là aussi, il y a une évolution de la pornographie. Gratuite, hein, je veux dire, parce qu'il y a de la très bonne pornographie, il y a de la pornographie féministe même, enfin voilà. Sur ce qu'on peut voir en libre accès et gratuit, c'est un peu une escalade de plus en plus violente, de plus en plus trash. Et effectivement, ça produit des normes aussi. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Effectivement, des normes de pratique avec des pratiques plus... de plus en plus hard. Effectivement, ça peut mécaniciser la sexualité, c'est-à-dire que ça présente une version de la sexualité qui est uniquement la pénétration, voilà, une pratique uniquement génitale, dire qu'on passe à côté de tout ce qui est sensualité, érotisme, caresse, tendresse, échange, etc. Tout ça n'est absolument pas représenté dans la pornographie. Alors que dans la vraie vie, c'est 95% de la qualité de l'acte sexuel. Ouais. Voilà. Et ouais, la jeune fille disait aussi quelque chose qui est intéressant. Elle parlait donc du rapport qu'un homme pouvait avoir avec la pénétration anale. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui aurait une pratique de se faire... Un homme hétéro, je veux dire, dans sa construction, dans son orientation, un homme qui est vraiment hétérosexuel, peut avoir quelques difficultés à trouver du plaisir au niveau de la zone anale parce que c'est une pratique qui n'est attribuée qu'à l'homosexualité.
Oui.
Or, physiologiquement, tout homme peut avoir du plaisir anal, qu'on soit hétéro, homo, bi, enfin voilà, c'est pas... Il y a souvent une confusion qui est faite à ce niveau-là entre la pratique et l'orientation sexuelle. Je veux dire que la pratique du sexe anal chez un homme ne va pas définir son orientation sexuelle. C'est pas parce qu'il aime cette pratique-là qu'il aimera les hommes.
Oui, oui.
Voilà, il peut aimer avoir une pénétration ou digitale ou avec un objet, voilà. Par une femme.
Oui,
par une femme.
Non,
voilà.
Mais J'avais des scènes en tête.
D'accord. Il y a eu des images.
Il y a eu des images. J'ai imaginé la chose.
D'accord. On est content, Louis. Super.
Bah moi, ça me fait plaisir.
Mais c'est bien, Louis.
Bah, ouais. Ma prostate est contente.
Voilà. Génial.
Ah bah je te laisse enchaîner. Hein.
Super. Du coup, on a parlé des déviances. Donc,
oui.
Des déviances qui semblaient principalement être celles qui enfreignent la loi dans l'imaginaire collectif, en fait. On parle des déviances de la pédophilie, on peut citer la scatophilie, par exemple. Ou...
La nécrophilie.
Voilà, par exemple. Alors... Ça, c'est des choses qui peuvent paraître plutôt dégradantes. Est-ce que c'est des... Parce qu'on a parlé, on en a pris l'exemple du fétichisme tout à l'heure, mais est-ce que du coup là on est dans des alors, envies qui sont plus hardes et moins facilement imaginables pour le commun
des mortels.
Pour parler des paraphilies tout à l'heure, effectivement, j'ai parlé du fétichisme parce que c'est quelque chose qui est connu et qui parlait à tout le monde, etc. Après, dans l'éventail des pratiques paraphiliques, en fait, si vous voulez, il y a autant de il peut y avoir autant de modes d'excitation que d'individus. Après, ce qui est effectivement, là, vous parliez de la scatophilie, bah effectivement, la scatophilie, ça peut être considéré, nous pouvons considérer, toi, tu peux considérer que c'est dégradant. Quelqu'un qui pratique et qui aime ça ne va pas trouver ça dégradant, puisqu'il va trouver son plaisir là-dessus. On est aussi sur des rapports souvent de domination, etc. Typiquement, ce que l'on, si on pouvait dresser un peu le portrait robot en fait hein, de la personne qui aime ce genre de pratique, c'est quelqu'un qui va être dans la vie, quelqu'un qui va être un décideur, un manager, quelqu'un qui va avoir très envie, donc qui est obligé tous les jours de décider, de gérer plein de choses, et qui dans sa sexualité aura besoin justement de lâcher prise complètement et de se retrouver à la place du dominé et non plus à la place du meneur et du dominant. Voilà. C'est absolument pas pathologique, et c'est, sauf s'il en souffre, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui. Et on est dans quelque chose de légal. Là où, effectivement, on sort de la légalité, c'est toutes les pratiques sexuelles donc avec des personnes non consentantes, avec des personnes mineures ou des jeunes enfants, bien sûr, avec des animaux et avec des morts. Voilà. Après, parce qu'il y a là, le respect effectivement du corps et de l'autre. Voilà. Après, les pratiques qui peuvent être faites entre adultes consentants, hein, suivant la formule consacrée, ou avec des objets, ou l'urophilie, ou des choses comme ça, on est là dans le cadre légal. Donc, si les personnes n'en souffrent pas, moi, ça ne me pose pas de problème.
Très bien. La suite, tu avais encore quelques questions, toi ?
Pour moi, ça va. Je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Je pense que moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus.
Non, moi, je pense qu'on peut dire, du coup, en conclusion, finalement, une sexualité normale, ça n'existe pas. Si c'est ça qu'il faut retenir de cette émission.
Non, la sexualité normale n'existe pas. La sexualité, elle est par contre normée, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à des normes. Voilà, si j'ai pu faciliter l'expression de ça, et surtout de faire réfléchir un petit peu chacun sur ses propres normes et comment on se construit par rapport à toutes les normes dans lesquelles on évolue. Effectivement, en fait, on se crée sa propre sexualité en fonction de toutes ces normes-là, et ce qui est normal pour l'un n'est pas normal pour l'autre. Voilà. Que ce soit en âge, comme on disait, en termes de pratique, en termes de nombre de partenaires, en termes de tout ce qu'on veut. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas de souffrance et on respecte le cadre légal et le consentement, c'est assez libre.
Donc il n'existe pas de sexualité normale, et la sexualité normée, c'est tout à chacun, tous les jours, d'une certaine façon.
Exactement.
Bon. C'est joli.
Bon, sur ce, Nalouane qui est rebelle, merci de nous avoir reçus. Merci à vous, chers auditeurs,
merci
de nous avoir écoutés. Hot version canapé revient le mois prochain. Et en attendant, retrouvez-nous chaque mardi pour la version brève dans laquelle on traite d'idées reçues sous un format plus court. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.